Le show du matin.
Là.
Weekend.
Avec Carbo.
Radio X.
Il revisite l'histoire.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
La chronique de Max Power.
Bon matin, Max Power, comment tu vas?
Hello, ça va bien, toi?
Oui, merci d'être là. Très beau chandail aujourd'hui de Nikola Tesla.
Oui,
ouais.
Le gars qui a inventé l'ampoule électrique.
Oh, ouais. Tiens, sur des airs d'Elvis Presley.
Ben oui, le jeune homme Elvis Presley.
Ça, c'est... moi, tu sais, on est d'accord ensemble, Max, depuis les années 80, plus belle décennie ever. Même dans ton palmarès des années, dans cette chronique-là, un jour, je pense que j'aimerais surface les années 80.
Oh oui, on peut les refaire.
Mais 1957 en particulier, avec Elvis qui se déhanche de façon de main de maître, c'est une belle année aussi pour moi.
Ouais, Elvis qui avait 22 ans à l'époque,
ouais.
qui commençait dans le domaine... Sa notoriété commençait. Là, 1956, on a parlé là, il y a un mois... avec Heartbreak Hotel, là, c'est Old Shook Up. Il y a eu quatre, dans le top 40 1957, il y a eu quatre positions d'indice première.
Ah, regarde, c'est comme assez incroyable. Pour expliquer le concept de la chronique, ben, on va se rappeler des événements importants qui ont marqué le monde, hein, Max, pour une année d'une décennie en particulier. Là, c'est les décennies de 1950. Mais on va discuter aussi du contexte économique, la politique, le social dans le temps. Puis souvent, ce que je te demande de faire comme exercice, c'est de me dire comment ça valait un char dans le temps, puis aujourd'hui, ou une livre d'abord dans le temps, et aujourd'hui. Donc, en 1957, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu un événement important qui a changé le cours de l'humanité. Là, c'est le jour où l'humanité est entrée dans l'espace. Le 4 octobre 1957, les Soviétiques font quelque chose que personne n'avait jamais fait avant eux autres. Ils ont lancé un petit satellite métallique de 58 cm de diamètre appelé Sputnik 1. 58 cm de diamètre, c'est comme un gros ballon de plage, ça. Puis Sputnik, tu sais ce que ça veut dire, Sputnik?
Sputnik, c'est Daniel Bélanger qui disait ça dans une toune, Sputnik.
Sputnik, non, c'est pas, on ne fait pas référence à Daniel Bélanger. C'est Sputnik, dans le sens astronomique du terme, c'est satellite ou, dans un sens plus large, compagnon de voyage ou conjoint.
Ah, oh, ben!
Eh oui.
Fait que Stéphanie, c'est ma Sputnik.
C'est ça.
Ah, OK. Bon, c'est bon, ça, Max. J'ai appris un nouveau mot ce matin.
Alors, aujourd'hui, ça semble banal, là, parce qu'on a des milliers de satellites au-dessus de nos têtes. Là. L'été, quand tu fais bien beau, là, le soir, là, tu vois passer. Là.
Ouais.
Mais à l'époque, c'était un choc mondial. Tu sais, imagine-toi la scène, là, des gens qui sortent dehors la nuit avec des jumelles pour essayer d'apercevoir un petit point lumineux qui traverse le ciel, puis de la façon qu'il était enligné. C'est, il passait au-dessus de tout ce qui était habité sur la Terre. Fait que tu ne pouvais pas le manquer. Là. Puis surtout, la façon que le signal était fait, il émettait un signal bip-bip qui voulait dire bip-bip. n'importe quel radio amateur, moindrement déniaisé, était capable de capter. Mais ce son-là a provoqué une panique gigantesque aux États-Unis parce que, en 1955, le Politburo, là, il avait dit, regarde, on va lancer un satellite dans l'espace. Puis Eisenhower avait dit, nous autres aussi, on va en lancer un. Puis les Russes, ils ont dit, on va être le premier. Les Américains, ils ont dit, on va être les premiers. Finalement, c'est les Russes qui ont été premiers. Fait que ça a créé une panique aux États-Unis. Fait que là, la panique, c'est parce qu'ils se disaient, si les Soviétiques sont capables d'envoyer un satellite dans l'espace, ils sont aussi capables d'envoyer des missiles nucléaires de l'autre côté de la planète.
Ah,
on est en pleine guerre froide
depuis
la fin des années 40.
Ouais.
Alors, les Américains vivaient ce qu'on appelait le Sputnik Shock. Alors, les journaux paniquent, les politiciens paniquent, les militaires paniquent. Fait qu'on on remet même en question le système d'éducation américain. On décide qu'il faut former plus d'ingénieurs, de scientifiques, de mathématiciens. Puis c'est directement cet événement-là qui a mené à la création de la NASA en 1958. Puis... grâce à ça, cette course-là vers la technologie spatiale, là, c'est grâce à ça qu'on a les GPS, les satellites météo, les téléphones satellites, les Google Maps, les communications mondiales, puis éventuellement les missions lunaires. il y a quelque chose d'ironique là-dedans, c'est que le premier objet créé par l'humain à tourner autour de la Terre, ben, ça n'a pas été un objet américain, ce qu'on aurait souhaité.
Hein?
Ben, peut-être pas souhaité, mais pensé, là, ce qu'on aurait anticipé. Deuxième élément d'importance, le traité de Rome, la naissance de l'Europe moderne. Alors, le 25 mars 1957, il y a 6 pays européens qui signent une entente historique à Rome. Rome, qui, comme on sait, est en Italie, pour ceux qui ne suivent pas. Alors, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. L'idée est simple, mais révolutionnaire. Après deux guerres mondiales catastrophiques, là, on parle des millions de morts, ils veulent rendre une nouvelle guerre pratiquement impossible. Puis le raisonnement, il est pas pire.
Bien, surtout que le Luxembourg a de quoi dire.
Ben ouais,
parce que le Luxembourg, c'est l'île d'Orléans. C'est pas plus gros que ça.
La moitié de l'île d'Orléans.
Ouais.
Ben, le raisonnement est brillant. Il dit, si les économies des pays deviennent interdépendantes, ils vont avoir moins d'intérêt à se faire la guerre, ce qui n'était pas fou non plus.
Ben, c'est vrai que c'est pas fou.
Alors, c'est la naissance de la communauté économique européenne, autrement dit, l'ancêtre de l'Union européenne. À l'époque, on trouve ça un petit peu utopique. Il y a des gens qui disent « ça marchera jamais ». Il y en a toujours des gens qui disent « ça marchera jamais ».
Mais oui.
Il y en a d'autres qui disent « quand est-ce qu'on commence ?» Alors, aujourd'hui, là, ce que ça donne, c'est la libre circulation entre plusieurs pays. Toi, t'en as fait du ménage
oui,
en Europe.
Oui,
tu lâches même pas le gaz quand tu changes de pays. Là.
Ben, ça dépend. Il y a des pays qui ont des douanes éphémères. Là.
Ouais.
Mais la plupart du temps, j'ai été capable de traverser. L'année prochaine, je vais faire 9-11 pays, là, justement, en Europe. Donc, tout ce que j'ai pas fait en Europe, je vais aller le faire l'été prochain. Mais c'est vraiment le fun d'être capable de circuler.
Ben oui. Alors, ça a amené aussi la monnaie commune avec l'euro là, en 2002, là, dans les transactions de tous les jours par les citoyens. C'était un immense marché économique, puis ça a entraîné une collaboration politique et commerciale. Tout ça découle de cette entente-là signée en 1957. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1957, là, l'Europe est encore traumatisée par la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore des villes qui n'ont pas été reconstruites, des millions de morts, comme on disait tantôt. Les économies étaient fragiles. Tu sais, l'Europe dépendait encore beaucoup du plan Marshall aux États-Unis, là, qui avait investi les Américains des milliards de dollars pour rebâtir l'Europe, mais c'était encore relativement fragile. Puis malgré ça, il y a certains dirigeants qui ont eu l'audace de penser à construire quelque chose ensemble plutôt que qu'à reconstruire chacun de leurs bords. C'est probablement une des plus grandes là, transformations politiques pacifiques de l'histoire moderne. Puis, il y a eu la crise de Little Rock en Arkansas. Il y a 9 adolescents en septembre 57, 9 adolescents noirs, ils tentent d'entrer dans une école secondaire réservée jusque-là aux Blancs, le Central High School à Little Rock, Arkansas. Little Rock, c'est la contrée de Bill Clinton, ça.
Ouais. Mais c'est inimaginable, hein?
Ah ouais.
Aujourd'hui, là, tu peux pas penser ça. Il y a des générations qui n'auront jamais.
Les États-Unis, ils reculent un petit peu, là, au niveau du Bible Belt, là, le sud des États-Unis, où même la Cour suprême vient de restreindre les droits de vote pour certaines minorités, là, c'est fait spécial. Mais ils ont commencé quelque part en 1957. Alors, à cette époque-là, la ségrégation raciale est encore profondément ancrée dans plusieurs États américains, les États les plus religieux en passant. Les images ont fait le tour du monde, des foules en colère, des insultes, des menaces, des adolescents terrorisés qui veulent juste aller à l'école. Alors, les gouverneurs locaux ont même tenté d'empêcher leur entrée, les gouverneurs républicains. Puis le président Eisenhower, lui, il a pris une décision historique. Puis ça, c'était lourd de conséquences pour lui. Il a envoyé l'armée fédérale pour escorter les étudiants puis faire respecter leurs droits constitutionnels. Fait qu'imagine-toi la scène, là. Puis là, sur YouTube, tu peux les voir, là, l'entrée de ces jeunes-là. Alors, les soldats armés accompagnant des adolescents pour qu'ils puissent assister à leur cours.
Hey, c'est pas drôle.
Alors, ce qu'ils appelaient les Little Rock Nine, ils sont devenus un symbole mondial du combat contre la discrimination. Puis à ce moment-là, ça va accélérer le mouvement des droits civiques, Martin Luther King Jr., les marches, les lois contre la ségrégation, puis la transformation sociale des années 60. Puis tout ça, il faut se rappeler, c'est parti. L'étincelle, là, c'est 1956, Rosa Parks. Mais Rosa Parks, 1955, Rosa Parks. Mais Rosa Parks a probablement été influencée par notre Viola Desmond, 1946, qui, elle, s'était tenue debout dans un théâtre d'Halifax.
C'est fou pareil, hein?
Ouais.
C'est une belle histoire, ça, d'ailleurs.
Bien, ces jeunes, il fallait avoir du guts en tabarnouche, là.
Ouais. Quand c'est rendu que ça prend l'armée pour aller à l'école, parce que ça brosse en sacrifice, là. Ouais.
Hey, aujourd'hui, t'imagines-tu si ça arrive?
Il y en a encore. Il y en a encore.
Il y a eu également la pandémie oubliée. La pandémie de grippe asiatique de 1957. Je ne sais pas pourquoi les pandémies, ça commence en Asie, là. alors, en 57, le monde qui avait déjà vécu une pandémie... Tu sais, en 57, il y a la grippe asiatique. On avait eu la grippe espagnole à la fin des début du 20e siècle. Puis le virus H2N2, toujours des noms exotiques, là, apparaît en Asie avant de se propager rapidement partout sur la planète. Puis contrairement à ce qu'on peut croire, les voyages internationaux, là, ça permettait déjà une diffusion extrêmement rapide. Fait entre 1 et 2 millions de morts dans le monde, selon les estimations. Puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est que même si on ne se souvient pas beaucoup de cette pandémie-là, ça a beaucoup influencé la médecine moderne au niveau de la surveillance des virus, le développement des vaccins, les systèmes de santé publique, puis la préparation aux pandémies futures. Mais en 1957, ça n'a pas créé un bouleversement si terrible que ça, parce qu'on était déjà habitué à vivre avec les risques sanitaires. Puis peut-être aussi parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux puis les chaînes d'information continuées pour faire peur au monde.
C'est ça, exactement. C'est ça qu'on n'avait pas.
Ouais, les films, qu'est-ce qu'il y avait comme bon film en 1957? Là? Le pont de la rivière Kwai, qui a gagné le score du meilleur film. C'est une grande fresque là, sur des prisonniers britanniques. Puis ce film-là est célèbre. Il n'y a pas grand monde qui a vu le film, là, sauf des gens qui ont mon âge. Mais la chanson du film.
Ah?
Les soldats britanniques qui sont en captivité, qui sifflent une chanson ensemble. Là, je sifflerai pas ça, je vais pas fermer les radios au Québec, là, mais c'est tan 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 tan
tan
tan tan tan tan
tan tan
tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Peter, qui a joué dans le pire film de tous les temps, selon moi, là, Easy Rider, tout le monde disait que c'était un film crié au génie.
C'est plate, ce cibole de film.
Ça n'a pas de bon sens.
Moi aussi, tout le monde me disait que c'était un bon film. Tu vas triper, c'est des motards.
Non, il n'y a pas d'histoire là-dedans.
Il n'y a rien.
Moi, s'il y avait des belles motos. C'est souvent classé, ce film-là, comme un des meilleurs films de tous les temps. Puis il est très utilisé encore aujourd'hui dans les formations en droit et en négociation.
12 jurés qui débattent dans une seule pièce. Ah ouais.
Oui.
C'est ça. Ah ouais.
Les Chemins de la gloire, Path of Glory, le troisième film là, de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick qui avait fait Orange Mécanique.
Mécanique,
par la suite. 2001, l'Odyssée de l'espace, etc. Puis il a fait un trop, là, Eyes Wide Shut, mais c'est une autre histoire. Avec Kirk Douglas, c'est un film anti-guerre extrêmement puissant qui est interdit pendant plusieurs années dans certains pays, parce qu'évidemment... la guerre, c'est toujours payant. Mais tout ça pour nous ramener à l'essentiel de 1957, la Chevrolet 1957.
Oh!
La voiture devenue une légende. Chevrolet 57, souvent appelée la 57 Chevy, est aujourd'hui considérée comme l'une des automobiles les plus emblématiques de toute l'histoire américaine. Pourtant, lorsqu'elle est arrivée chez les concessionnaires en septembre 1956, personne n'imaginait qu'elle deviendrait un jour une véritable icône. Chevrolet 57, là, mon grand-père, il a eu ça, son premier char.
Ouais.
Il a acheté ça en octobre 1956. Puis lui, il ne pouvait pas chauffer parce qu'il n'y a pas de permis de conduire. Fait que c'est mon père qui chauffait.
C'est drôle.
Puis mon père, il n'avait jamais le temps d'y montrer comment chauffer. Là. Fait que pendant un an et demi, c'est mon père qui a chauffé le char de son père.
C'était-tu manuel, ça, cette affaire-là?
Non, il y avait un handicap. Mon grand-père, il avait pris la Power Glide de vitesse.
Il était handicapé.
Oui.
OK.
Alors, on y reviendra.
Ouais.
Alors, le Chevrolet 57 là, était offert en trois grandes séries. Le 150, le modèle économique destiné aux familles et aux flottes commerciales. Alors, c'était de base un 6 en ligne. Puis,
Bien de base.
Tu avais le 210, modèle intermédiaire, puis tu avais le Bel Air, qui était le haut de gamme. Il existait également le Nomade, qui est une familiale deux portes. Ah ouais, c'est Nomade, c'est une belle voiture.
Ça. Un Nomade 57, si tu trouves ça, là, tu payes ça en bas de 50 000, là, tu peux te dire.
Ouais.
Ça valait quoi, 3 000 $? On verra tantôt.
Ouais. C'était le Nomade, c'était un deux-portes haut de gamme qui est aujourd'hui un des modèles les plus recherchés. Les prix à l'époque, ce que ça valait, Chevrolet 57, un 150, deux-portes, 1950$ US,
hey,
de près au port avec le dollar canadien, mais 22 300$ en dollars de 2026. Puis si tu voulais aller dans le top, 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 le Nomade tout équipé, là, tu payais ça 2 900$ US, soit 33 000$ en dollars de 2026, soit le prix d'un Toyota Corolla tout équipé aujourd'hui. Mais si tu veux mettre ça en perspective, là, le salaire moyen américain en 1957, ça tournait autour de 4 500 à 5 000$. Fait que ça te prenait la moitié de ta paye pour une année pour acheter ton char. Si on compare ça aujourd'hui, le prix moyen des chars au Québec vendus en 2025, c'est 60 000$. Puis le salaire moyen au Québec, c'est 60 000$.
C'est ça. C'est
une année de paye complète.
On a débarqué à Chine à un moment donné. Hein?
Mais à l'origine, là, les dirigeants de GM, ils voulaient lancer une toute nouvelle voiture pour 57. Mais ils ont eu des retards de production qui ont forcé Chevrolet à conserver la plateforme 55-56 qui était, tu sais, dans les Tri-5, là, ce qui était vraiment bien. Alors, les ingénieurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transformé un petit peu l'apparence. Ils ont mis des roues de 14 pouces au lieu de 15 pouces. Les roues de 14 pouces, ça n'existe plus aujourd'hui. Ils ont rabaissé un petit peu la carrosserie. Ils ont élargi la calandre. Des nouveaux phares entourés de chrome. Le chrome, c'est bien important à l'époque.
Oui, monsieur.
Puis des immenses ailerons arrière. Puis c'était pas juste décoratif, les ailerons. Là, ça servait aussi à élargir visuellement la voiture. Fait que c'est pour ça qu'il y a plusieurs la surnommaient le « baby Cadillac » parce qu'il reprenait plusieurs éléments stylistiques des Cadillacs de l'époque. Puis au niveau de l'empattement, là, 115 pouces d'empattement, là, ça se compare à mon Toyota Camry, qui est 113 pouces d'empattement. Fait que ça devait avoir une tenue de route, même la suspension, c'était à chier. Tout, là,
non, c'est sûr.
Ça devait quand même être pas pire, là, ça allait en route. 200 pouces de longueur, 77 pouces de largeur, ça pesait environ 3300 à 3700 livres, ce qui n'était pas pire. Malgré que c'était, par rapport au char aujourd'hui, c'était une grosse voiture, là, elle était plutôt légère comparativement aux Oldsmobile ou aux autres voitures de cette époque.
C'est le poids d'un Camry.
C'est ça. Puis les moteurs, ce qui était disponible là-dedans, tu avais le moteur de base, le Blue Flame 6, qui était déjà utilisé dans Corvette depuis 1953. Un 6 cylindres en ligne, 235 pouces cubes, 140 chevaux, un carburateur simple corps. Mais la vedette, évidemment, c'était le V8. Les vrais hommes avaient des V8 à l'époque. Alors, tu avais le Turbo Fire 265. Comme son nom le dit, 265 pouces cubes, 162 chevaux. Le Turbo Fire 283, vous aurez compris, 283 pouces cubes, 185 chevaux. Puis le Super Turbo Fire, carburateur 4 barils, 220 chevaux. Puis il y avait le monstre, là, le 283 à injection Rochester. L'arbre à cam Duntov. Duntov, c'était l'ingénieur à la base de la Corvette en 1953. Des poussoirs solides, injection mécanique, 283 chevaux. Puis ce moteur-là, il réalisait un exploit historique. Un cheval vapeur par pouce cube, ça semble normal aujourd'hui, mais en 1957, c'était révolutionnaire.
Je comprends, donc.
Puis ce que tu avais comme option, il y avait toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, le V8, l'option V8, 283 avec carburateur, il fallait que tu payes 107$ de plus. L'injection, 500$ de plus. La boîte automatique Power Glide, là, c'est évidemment, si tu étais moins équipé intellectuellement, là, tu pouvais la commander pour 178$.
Attends, son Turbo Glide.
Oui. Ça, c'était encore plus handicapant. Puis, tu pouvais rajouter l'air climatisé, 400$, direction assistée, 94$. C'était, à l'époque, les affaires, le Power Steering, Power Brake, là, c'était pas bien commun, là. Vite électrique, 108$. Power Brake, 38$. Les sièges électriques, 60$. La radio AM.
C'était plus cher que les brakes.
Oui, 95 à 100$. L'antenne électrique, tu peux même avoir une horloge.
L'horloge à 16$.
Et les ceintures de sécurité, 11$.
Oui, mais ça, c'est facultatif.
Puis quand ils les avaient, de toute façon, les gens ne s'en servaient pas.
Oui.
Alors, tu peux commander une voiture de toutes ces options-là. Puis il y avait des options aussi qui sortaient direct d'un film de science-fiction des années 50. Le Autronic Eye, un capteur installé sur le tableau de bord qui détectait les phares venant en sens inverse et réduisait automatiquement l'intensité des phares. Ça coûtait 45$, ce qui est standard maintenant sur mon Toyota Camry. Il y avait aussi un haut-parleur arrière.
Juste un,
oui. Mais c'est parce que tu n'avais un dans le dash. Oui. Mais tu peux en avoir un en arrière.
Dans le banc en arrière. Oh, là, oui, c'était, oui. Là c'était du son.
Ça la tablette en arrière. Puis évidemment, tu n'avais pas de défrost là, dans, automatique. Tu avais juste une soufflerie en arrière. Puis il y avait un rasoir électrique intégré directement au tableau de bord. Une option très pratique. Alors oui, Chevrolet vendait réellement un rasoir pour les automobiles.
Puis, tu te rosais avec ça, là, un
peu? Ouais, dans le char.
OK. Les tartoiles un peu partout.
Sauver du temps. Alors, c'était vraiment... La Chevrolet 57, c'est devenu rapidement une vedette des pistes NASCAR. Ils ont gagné des victoires. Là, 49 victoires NASCAR, Grand National. Les 26 victoires en catégorie décapotable. Il y a certaines versions qui étaient tellement puissantes qu'ils étaient surnommées Black Widow. Ça dominait tellement les compétitions qu'ils ont modifié leur règlement. Mais ce qui est le plus ironique, c'est qu'en 1957, la Chevrolet 57 n'a pas été la voiture la plus vendue de son année. Ford a battu Chevrolet pour la première fois depuis 1935. Ben, c'était toujours la grosse compétition Ford-Chevrolet. Mais avec les décennies, les rôles se sont inversés. Aujourd'hui, un Bel Air décapotable restauré à la perfection, le Rotisserie Restoration, 100 000$, parfois 150 à 200 000 $. Vous pouvez voir sur YouTube, là, Jackson Barrett, les actions,
c'est fou, les
encans, ce que ça sort. Puis il y a des modèles très rares qui atteignent davantage. Une voiture qui coûtait environ 2 500$ en 1957, puis la revendre 200 000 $, c'était un maudit bon rendement. Mais c'était pas seulement une voiture, c'était un symbole culturel américain et nord-américain, on peut dire, parce que même aujourd'hui, là, quand t'en vois une, tu t'arrêtes pour la regarder. Ce qu'on va pouvoir faire en voyant le show des Belles d'autrefois. Là.
Ah oui.
Puis le show de Carbo.
Le show de Carbo à Saint-Émile, ouais, oui. Exactement. On pourra peut-être avoir la chance d'en avoir un. Quand même intéressant, mais ce que je remarque au fil de tes chroniques, Max, c'est toujours la même affaire, c'est qu'il y a de quoi qui s'est passé, là. Parce qu'un char neuf à 33 000, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est la valeur moyenne des voitures, c'est 50 000.
Ouais,
ça existe encore. Ouais.
Le Chevrolet 57, ça a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est le premier char de mon grand-père. Il l'a gardé jusqu'en 67. C'est le premier char que j'ai chauffé.
Aussi?
Oui, oui. Alors, j'ai chauffé à 5 ans.
Et tabarnouche.
Ouais, il m'installait sur ses genoux.
Okay.
Moi, je tournais le volant, puis là, j'occupais les pédales.
Parfait.
Ce qui est impensable aujourd'hui.
Non, ben là, c'est épouvantable. Là, quelqu'un, il passe à LCN.
C'est aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai attendu au moins, tu sais, que ma plus vieille ait 13 ans avant de faire chauffer mon char.
Ah oui.
À l'Université Laval,
tu sais. Oh, c'est ça, c'est parfait. Ben oui, c'est
ma deuxième a dit, pourquoi, moi, c'est, j'ai 14 ans, puis tu m'as pas fait chauffer encore? Ben, je dis, on va attendre que ta mère soit partie de la maison. Là, on va aller à l'Université Laval.
Juste les deux.
Très intéressant. Merci beaucoup, M. Max Power, plaisir. Encore une fois. On va faire une pause. Je suis avec Jessica et Mélanie. Et au retour, gros show. Gros show avec Renaud Labrec.
Ladies and gentlemen, le show du matin. Quiet, please. Weekend.
Radio.